Donc Colossiens chapitre 1er. Et on va surtout voir à partir du verset 15, 15 et suivant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois, en fin de matinée, quand l'heure du repas approche, on sent l'odeur du plat principal qui est en train de cuisiner. Ça attise un peu ça stimule notre appétit. Et une fois qu'on se met à table et qu'on prend une entrée, l'entrée passe mal. On a du mal, ça gâche un peu notre attente, ce qui a été stimulé par la bonne odeur. Et parfois, c'est un peu la même chose sur le plan spirituel, lors de notre lecture personnelle ou en commun ou lors d'un message, on va sentir l'odeur du plat principal et on a hâte d'y arriver. Et puis après, on va trouver des choses qu'on considérera comme étant des entrées et qui ont du mal à passer, qui vont nous laisser sur notre faim. Et le message principal, ou le plat principal plutôt, c'est ce message qui est riche, qui est profond, qui est plein d'espérance dans la parole de Dieu. Dans ce passage, on va le trouver, on va trouver cette expression au verset 23. Il parle de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Et parfois, on peut croiser des entrées qui parfois posent problème, qui semblent contredire d'autres passages de l'Écriture, qui ne s'accordent pas, ou qui semblent pas ne s'accorder. Et qui vont nous laisser, qui vont gâcher notre expérience du festin. Donc, le plat principal ici, nous le voyons dans cette expression donc, de l'espérance de l'Évangile. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais trois entrées qui pourraient et qui posent parfois des difficultés, qui parfois gâchent l'ensemble. Trois difficultés que l'auteur, que nous pouvons trouver dans ce passage, des passages difficiles, mais comme nous allons essayer de le voir, qui en fait font partie intégrante du festin de l'Évangile. Et la première chose que l'auteur souligne et qui pose pour certains quelques difficultés, qui restent en travers de la bouche, c'est cette expression, verset 15, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Je dis ça en particulier par rapport, entre autres, aux témoins de Jéhovah, qui vont utiliser ce verset pour dire que Jésus a été créé, qu'il fait partie de la création. Mais cette expression, le premier-né, est une expression de dignité, une expression de prééminence. Nous la trouvons dans l'Ancien Testament, par exemple, dans le psaume 89, verset 28. Et moi, dit l'Éternel, je ferai de lui le premier-né, c'est-à-dire le plus élevé des rois de la terre. Et c'est dans ce sens que Paul utilise donc cette expression. Christ possède un statut qui est glorieux, qui est unique. Il est prééminent. Surtout, il est au-dessus de tout puisqu'il est l'image du Dieu invisible. Mais la question donc, c'est est-ce que cette expression premier-né de toute la création, est-ce qu'elle veut dire que donc Jésus fait partie de la création ou est-ce qu'il est au-dessus de la création? La réponse, l'auteur nous le donne au verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. La réponse, elle est là, au début de ce verset 16, avec ce mot « car ». Ce verset explique ce qui précède, il développe ce qui précède. Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses. Si Paul essayait de dire aux Colossiens que Christ a été créé, il ne pourrait pas s'appuyer sur cet argument que tout a été créé en Christ. Ce verset 16, donc, est une explication claire que Jésus-Christ est le premier-né, non pas dans le sens qu'il fait partie de la création, mais plutôt qu'il est au-dessus de la création. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Il n'y a donc aucune raison de laisser cette entrée, si on peut dire, gâcher notre repas. En fait, on pourrait passer encore davantage de temps et en faire de ce passage un repas en lui-même. Christ est non seulement notre sauveur, il est notre créateur. Il est celui qui a créé toutes choses, par qui et pour qui ont été créées toutes choses. Cela nous devrait donc nous encourager, nous stimuler à l'adorer encore davantage. La deuxième chose que l'on pourrait décrire comme étant une entrée qui pourrait gâcher l'ensemble, c'est ce que Paul dit au verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui par le sang de sa croix. Et si dans le premier, certains donc essayent de voir là le fait que Jésus a été créé ici, certains disent que Paul est en train d'enseigner l'universalisme, que Paul est en train de dire que, en fait, à la fin, tous seront sauvés et que personne n'ira en enfer. Bien entendu, ce n'est pas ce que la parole de Dieu affirme. Nous avons une aide dans ce que Paul dira un peu plus tard au chapitre 3 et au verset 10 et 11. Lisons à partir du verset 9. « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni ici, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » Paul, au verset 10, verset 9, décrit les croyants comme ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. Et au verset 11, il y a ce petit mot. Il n'y a ici ni grec ni juif. C'est-à-dire que ce qu'il dit là, dans ce verset, se limite à cette nouvelle humanité dont il parle au verset 10. Se limite au cadre de l'Église. Dans l'Église, il n'y a plus de division. Il n'y a plus toutes ces différences. C'est vrai que l'on prend la fin du verset 11 à part, Christ est tout et en tous, on pourrait penser que Paul enseigne l'universalisme, mais ce n'est pas le cas. Ici, au début de ce verset 11, il n'y a ici ni grec ni juif. Nous ramène à ce cadre de l'Église, à ce cadre de cette nouvelle humanité en Christ, à ce cadre de ce peuple qui est recréé, de cette nouvelle création. Et c'est dans ce cadre-là que Jésus-Christ est tout et en tous. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre le verset 20 de ce premier chapitre. Si on reprend le développement de ce passage, il parle, versets 15 à 17, de la création dans son ensemble, de l'univers. Christ est prééminent. Il est au-dessus de toute la création, de tout ce qui a été créé dans l'univers. Et puis au verset 18, il parle plus particulièrement de l'Église, de cette nouvelle création. Verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est la tête de cette Église qui un jour le suivra dans la gloire pour l'éternité. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons ce verset 20, où il parle de réconcilier, de tout réconcilier avec lui-même. Il faut le comprendre dans le même sens que ce qu'il dit au chapitre 3 et verset 11. Tout ce qui appartient à cette nouvelle création, tout ce qui est compris dans cette nouvelle alliance, tout ceux qui sont choisis par Dieu depuis l'éternité, depuis toute éternité, tout cela seront réconciliés à Dieu par Christ, entreront, font partie de l'Église et connaîtront la paix avec Dieu par Christ. Et il en sera le chef. Et donc, il n'y a pas de raison de laisser cette deuxième entrée, si l'on peut prendre cette image, gâcher le reste du repas. Encore une fois, on pourrait faire de cela tout un plat principal. Christ est souverain, il est maître de tout, et il est aussi le chef de l'Église. Il sauvera tout son peuple. Toutes les brebis que le Père lui a données viendront à lui. Il n'en manquera pas une. Toutes seront sauvées. Toutes connaîtront la paix avec Dieu par le sang de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième chose qui parfois pose obstacle, la troisième entrée qui peut éventuellement causer quelques soucis, c'est ce que l'auteur, ce que Paul dit au verset 23, quand il parle de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Paul écrit cette lettre, il sait que l'évangile n'a pas atteint tous les peuples. Paul écrit de Rome, son souhait c'est s'il était libéré, de continuer jusqu'en Espagne. Pourquoi? Parce qu'il veut prêcher Christ là où Christ n'a pas encore été prêché. Mais nous avons encore un indice au verset 6 de ce même chapitre. Quand il écrit, parle de ce verset 5, la parole de vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte aussi des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Et le message là, principal, c'est que l'évangile n'est pas pour un seul groupe. L'évangile est pour le monde entier. Et l'évangile avance, l'évangile progresse dans ce monde. Et il parcourt le monde entier. Trois entrées, donc, pour reprendre l'image du début, trois entrées qui parfois posent problème et qui viennent parfois éventuellement gâcher le festin. Mais quand on regarde de plus près, on voit que ce que j'ai appelé des entrées sont bien plus que de simples entrées. La première, verset 15, parle, nous l'avons dit, de la prééminence divine de Jésus-Christ. Il n'est pas une créature, il est l'image du Dieu invisible. Il est Dieu. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Il maintient toutes choses par sa parole toute puissante. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas d'évangile. Paul écrit par exemple en 2 Corinthiens 4, verset 4, ces paroles, il dit que notre évangile est l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Notre première entrée n'est pas seulement une entrée, elle fait partie du festin de l'Évangile. Si on retire de Christ sa prééminence, si l'on retire de Christ sa gloire et son autorité sur toute chose, il n'y a plus d'Évangile. Le salut ne vient pas d'un homme, le salut ne vient même pas d'un ange. Le salut est dans le fait que Dieu s'est fait homme, qu'il s'est humilié, qu'il a connu, qu'il a vécu tout ce que nous connaissons sans commettre de péché, et qu'il a remporté la victoire sur la mort. Seul Dieu fait homme peut sauver son peuple. Il est donc nécessaire, et cela fait partie de l'Évangile. Ce n'est pas simplement un hors-d'œuvre, une entrée, mais cela fait partie même intégrante de l'Évangile. La deuxième entrée n'est pas seulement une entrée non plus. Nous savons qu'il a plu à Dieu de créer toutes choses par son Fils, mais il a aussi plu à Dieu de réconcilier cette nouvelle créature par cette nouvelle création par la mort de son Fils. Paul le souligne, il rappelle au verset 21 que nous étions autrefois par nature étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres. Nous étions rebelles par nature, n'avions aucun désir, aucun intérêt pour Dieu. Mais la fin du verset 21, mais il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Par la mort de Christ, nous avons, Dieu a créé cette nouvelle race, ce peuple saint, cette race élue, ce peuple choisi, un peuple qui n'est plus hostile, qui n'est plus ennemi de Dieu, mais qui est réconcilié avec lui. Et Dieu a voulu que son Fils ne soit pas seulement au-dessus de toute la création, mais qu'il soit le tête de cette nouvelle création, qu'il soit la tête de cette nouvelle création, qu'il soit la tête de l'Église. Cette deuxième entrée fait aussi partie intégrante du festin de l'Évangile. Si Dieu n'avait pas vaincu notre hostilité à son égard par le sang du Seigneur Jésus-Christ, nous ne serions jamais devenus de nouvelles créatures. Il n'y aurait jamais eu de bonnes nouvelles dans ce monde. Mais Dieu est intervenu et nous a donné son Fils. La troisième entrée fait aussi partie du festin de l'Évangile. L'Évangile est prêché partout dans le monde. L'Évangile est pour tous. Il n'y a pas de restriction de race, de culture, de couleur de peau, de condition dans laquelle nous sommes. Non, l'Évangile, Paul le dit en Romains, est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cet Évangile progresse, il avance dans le monde, il porte des fruits, c'est bien, bien plus qu'une simple entrée. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile vient par la parole, mais l'Évangile vient aussi par la puissance de l'Esprit qui transforme les cœurs. Et ces choses, ces trois choses, font partie de ce message, de ce festin de l'Évangile, ce festin qui nous est résumé ici dans cette expression de l'espérance de l'Évangile. Il n'y a pas de plus beau message que celui du pardon que nous avons en Christ, que celui de la grâce de Dieu, de cette grâce souveraine, de cette grâce libre, gratuite, de cette grâce que Dieu manifeste en Jésus-Christ, que Dieu a puni son propre Fils pour que tous ceux qui sont en lui, tous ceux qui croient en lui, soient réconcilié à Dieu, qu'il soit adopté dans sa famille et qu'il puisse se réjouir dans cette réalité qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus beau message que d'entendre ce pardon et de se savoir réconcilié, pardonné par Dieu, réconcilié avec lui par le Seigneur Jésus-Christ. C'est un message d'espérance même pour le pire des pécheurs, même pour celui, même comme l'apôtre Paul, qui se décrit ainsi, qui a pourtant persécuté l'Église, mais qui a connu l'intervention de Dieu dans sa vie. C'est de l'espoir pour ce monde, encore aujourd'hui, cette bonne nouvelle pour un monde perdu, pour un monde déchu, pour un monde dans les ténèbres. C'est un message d'espérance jusqu'à ce que le dernier des élus soit entré dans la bergerie, la dernière des brebis, soit appelé et entré, soit entré dans le berger, dans la bergerie. Après quoi, effectivement, viendra le jour du jugement, le jour du retour de Christ dans la gloire, qui pour nous est aussi, encore une fois, une espérance glorieuse, un avenir glorieux qui nous est réservé, un avenir que nous ne méritons pas par nature, mais qui nous est offert en Christ. L'Église sera réunie à son époux pour l'éternité, l'espérance de l'Évangile. Mais comme Paul nous le rappelle, il nous faut veiller, il nous faut rester fondés dans cet Évangile, dans cette espérance de l'Évangile que nous avons entendu, nous réjouir de cette espérance que nous avons en Christ et de vivre dans cette espérance, de ne pas nous détourner d'elle, de ne pas nous laisser détourner par tout ce que le monde pourrait nous faire croire, mais de nous appuyer toujours sur cette espérance que nous avons en Christ, cette espérance de la gloire, de ce salut éternel pour l'éternité avec Christ. Voilà trois choses qui, lors d'une lecture superficielle, pourraient gâcher le festin, mais trois choses qui en fait font partie intégrale du festin de l'Évangile. Christ est non seulement au-dessus de toute chose, il a la prééminence divine au-dessus de toute chose, puisqu'il est le Fils, il est l'image du Dieu invisible. Il est aussi la tête de l'Église. Cette parole, cette bonne nouvelle est pour tous, pour le monde entier, sans distinction. C'est une bonne nouvelle qui ne tient pas compte des différences que nous connaissons dans le monde, mais qui est pour tous. Tous ceux qui entendent cette bonne nouvelle et qui, par la grâce de Dieu, sont touchés et croient au Seigneur Jésus-Christ, connaissent et peuvent vivre dans cette espérance de l'Évangile. Que Dieu donc nous aide à nous appuyer, à demeurer ferme, fondé dans cette foi qui a été révélée au saints une fois pour toutes, et à ne pas nous détourner d'elle, qu'il nous fasse nous réjouir toujours plus dans cet évangile, dans cette grâce que Dieu nous a faite en Jésus-Christ, et qu'il nous donne de l'annoncer partout où nous le sommes. Que Dieu nous aide à le saisir et à le vivre pour sa gloire. Amen.